Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est un peu notre vie sociale, en fait, cette série. Et ça l'est devenu, en fait. C'est ça qui est trop bizarre. C'est que c'était pas du tout censé être comme ça au début. C'était vraiment juste censé être une petite série, qu'on ferait des petits épisodes de temps en temps. Et en fait, c'est tellement intégré à nos vies que ce concept de se dire, mais en vrai, on pourrait la poursuivre le plus longtemps possible. Et c'est ce qui se passe, en fait.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Célia. Et Bastien,
salut.
T'as vu, j'ai mis un petit accent, mais peut-être pas du tout.
Bah, c'est moi qui viens du sud quand même.
Pardon. Oh là là.
Ah ouais, attention,
bon, ça commence, ça le prend mal tout de suite.
C'est ça.
On commence mal.
Très sensible.
Célia et Bastien, bienvenue dans mon podcast Histoire de succès. Je suis trop content de vous avoir.
Nous aussi.
J'ai découvert votre travail par l'intermédiaire de Guillaume Desjardins, à qui je fais un bisou. Je ne crois pas qu'il écoute mon podcast, mais je lui enverrai, ce sera l'occasion.
Oui, gros bisou quand même.
Gros bisou. Guillaume qui fait une chaîne qui s'appelle Rouge Vert Bleu, si je ne me trompe pas, comme RVB.
C'est ça.
Comme les couleurs chromatiques du cinéma.
Ouais.
De l'image,
c'est ça.
Où il interview des créateurs et il m'avait, j'avais vu la petite vignette qui disait comment louer
ces films,
louer ces films, comment gagner de l'argent grâce à ces vidéos, quoi. Parce que c'est un peu son but à Guillaume. Et je suis tombé par hasard sur votre web série qui s'appelle La Vie Douce, dont j'ai déjà parlé dans les biscuits de la vie. Je mettrai le lien si jamais vous voulez vraiment avoir l'intégralité du contenu que j'ai créé sur vous. Entre Noël et Nouvel An, et vous m'avez accompagné pendant, je crois, 10 jours. Où j'ai regardé à raison de... Vous m'avez dit 25 heures de contenu, c'est ça?
Ouais, grosso modo, c'est ça. Ça augmente vite. Mais ouais, dis donc, tu as fait que ça.
J'ai fait que ça, vous étiez mes copains. Vous étiez mon doudou,
post-Noël.
Ah, c'est trop chou.
Non, mais c'est vrai. C'est un truc qu'on vous dit souvent, non? Une forme de proximité avec...
Doudou, c'est la première fois.
Ah, ok.
Ouais, ça nous plaît bien, ça, doudou.
Ouais, c'est trop mignon. Ouais.
Vous avez été mon doudou post-Noël, quoi, tu vois. Post le petit somme de Noël.
J'adore.
Mais ça fait plaisir de savoir qu'on peut consommer les presque 70 épisodes sans se lasser sur un aussi court laps de temps. C'est cool de savoir.
Bah, c'est comme... maintenant, je suis un peu frustré parce que ça arrive... de ce fait-là, j'ai récupéré.
Et
ça arrive tous les 15 jours parce que vous sortez un nouvel épisode tous les 15 jours.
Et
j'aimerais bien revenir à ce truc, tu sais, où tu peux tout manger d'un coup, quoi.
Mais ça t'a pas fait peur d'avoir tant d'épisodes à regarder ?
Non, je t'avoue que c'est un peu comme... c'est un peu comme la grenouille dans la casserole, tu sais. Tu vois la métaphore ou pas? Tu la fais chauffer petit à petit. Et en fait, je crois que tu t'en fais un, puis t'en fais un deuxième. Les premiers épisodes sont un peu plus courts.
Oui, ouais. C'est vrai.
Et en fait, c'est vrai qu'au fil de l'eau, je me retrouvais avec des épisodes d'une demi-heure. Je me disais, ça fait quand même une demi-heure, là, les salauds, ils m'ont bien dû. Mais c'était toujours agréable.
Mais ça t'a pas démotivé. Enfin, tu as vu les 70 épisodes, tu t'es pas dit, oh là là, dans quoi je m'embarque?
Pas du tout, ça m'a pas fait peur d'avoir les 70 épisodes. Et en fait, je les ai pris au fil de l'eau, quoi. Et c'était très cool, mais je pensais pas les regarder aussi vite. Mais c'est une drogue, hein. Sachez-le.
Ah yes.
Pour les gens qui.
Une bonne drogue, comme le sport.
C'est voilà. Une drogue douce.
Je dirais vraiment un vendeur de crack, quoi, tu vois. Ah, yes, tu vas en consommer plein.
Non.
Non, mais c'est cool. Et c'est marrant parce que moi, je pensais vraiment pas que notre petite série pouvait avoir ce côté un peu addictif. Comme peuvent l'avoir les grandes séries. Enfin, qu'on a l'habitude de regarder et qui sont très très addictives, parce qu'en plus ils y mettent tous les ingrédients pour qu'on ait envie de regarder les épisodes. Nous, c'est vrai qu'on pensait pas du tout à la faire de cette façon-là, et du coup, c'est cool.
Donc, vous êtes les co-créateurs de cette série que vous avez commencé en 2019, si je me trompe pas.
C'est Célia qui a les dates. Moi, je.
Que je dise pas de bêtises, oui, c'est mars 2019.
Ouais. Mars 2019, ouais. Donc ça va faire 3 ans.
Oui.
Ah.
C'est fou, ça passe vite.
Ça passait très très vite.
Et comment vous pitchez La Vie Douce ?
Bon, vas-y.
Alors, pour la pitcher, je dirais que c'est une série sur la vie de plusieurs personnages, des hommes et des femmes, qui vont finir parfois par se rencontrer. C'est des destins un peu croisés. Et en fait, on est plongé dans leur quotidien. Et vraiment, leur quotidien dans tout ce qu'il y a de plus banal. Et leurs histoires d'amitié, d'amour. C'est vraiment leur problème existentiel. Et voilà. Et on les voit évoluer, on les voit changer. On les voit grandir, vieillir. Et voilà, et tout ça de façon assez réaliste, un peu proche du documentaire. Voilà, je sais pas si c'est assez bien pitché.
C'est pas mal.
Pitcherais comme ça, toi.
C'est pas mal pitché, mais après, ce que vous dites, c'est que c'est un peu une slow série. Je trouve que le terme est marrant. Oui. C'est qu'il y a un côté très lent, en fait, dans la. Et c'est pas un terme négatif pour le coup, parce que à l'heure du TikTok où tu as envie d'avoir des vidéos toutes les 10 secondes, là, il y a un côté très. Ok, tu t'assois dans le canapé, justement, tu prends le temps de regarder, et c'est cool, et c'est tranquille, et les personnages prennent le temps aussi de développer les idées, etc. Enfin, c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui sur YouTube, quoi.
Ouais. Ouais, clairement.
Ouais.
Il y a une dimension un peu, pas ASMR, mais disons que, ouais, ce côté un peu.
Une dimension un peu documentaire, je trouve.
Oui.
Ça va en même temps qu'au rythme réel de la vie. Donc du coup, on n'essaie pas d'accélérer les choses. On va au rythme de la vie, quoi.
Au plus proche, ouais.
On en parle. Oui, pardon.
Non, non. Non, non, c'est une notion d'ennui. On l'embrasse totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, quoi. C'est, la vie, elle est parfois un peu boring. Mm. Et ça, c'est un truc que nous, qu'on trouve vraiment chouette de montrer, quoi.
Mais pourtant, on ne s'ennuie pas.
Oui, et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est
Parce que si tu dis aux gens qu'en fait, tu vas t'ennuyer devant ta websérie, ça va être chiant.
Ouais, on la vend très très mal, je crois.
Ouais, on n'est pas très doués pour ça, mais non, c'est super. Hein.
Oui, c'est super.
Merci.
On va en reparler un peu après, mais je crois que justement, cette idée de slow série, ça vient impacter la création en tant que telle, le tournage, j'imagine, la direction des acteurs, des actrices, etc. Mais on reparlera un peu de ça un peu plus tard. Moi, la question que j'aime bien, donc c'est un exercice un peu compliqué parce que vous êtes deux, et j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre un petit peu comment vous avez fini par vous rencontrer. Mais avant ça, moi, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Célia, quand tu avais 7-8 ans, par exemple?
Quand j'avais 7-8 ans. Alors, 7-8 ans, c'est quoi? C'est CP, CE1,
oui.
À peu près.
CE1, CE2.
Ok, CE1, CE2. À quoi je ressemblais? J'étais une petite fille assez stressée, qui faisait de la musique. Je faisais du violon à cette époque. J'aimais pas trop l'école, même si j'avais de très bonnes notes, mais j'aimais pas trop ça. Et j'étais plutôt joyeuse. J'aimais déjà beaucoup l'art. Donc je faisais de la musique, je jouais beaucoup avec mon frère face caméra, on faisait des spectacles de théâtre, on chantait. Et voilà, je vivais une existence plutôt banale, paisible, et voilà.
Ok.
C'est à peu près tout.
Et toi, Bastien ?
Le point qu'on avait en commun, c'est que moi aussi, j'aimais pas tellement l'école. Et que voilà, mais sinon j'ai eu une enfance joyeuse. Et je pense que oui, assez jeune, moi aussi j'avais cette fibre un peu artistique. Et bon, c'est un peu cliché ce truc du réalisateur de dire qu'il faisait des films dans son jardin avec la caméra de la famille, mais c'était vraiment ça. Et disons que ouais, je prenais un peu en otage mes amis pour faire des films. Plutôt que d'aller jouer au foot ou de faire des jeux comme ça.
Tu jouais au foot.
Je jouais au foot aussi, mais.
T'avais le droit de jouer au foot. T'as le droit de jouer au foot, hein. On va pas te.
Oui, non, j'étais un grand footeux, moi. Grand footeux. Mais c'est vrai que j'avais aussi tendance à les obliger à faire des films. Et en plus, après, je faisais un truc qui était terrible, c'était que je les obligeais à me regarder faire le montage. Ce qui est une activité plutôt solitaire, normalement. Et
c'est hyper bizarre.
J'avais besoin qu'ils soient à côté de moi. Donc, ouais, ça a commencé assez tôt.
Ok.
Les films.
Ok. Comment vous allez de plus en plus vers une carrière artistique? Toi, Célia, tu as fait du droit, c'est ça?
Oui, mais j'ai toujours su que je voulais faire une carrière artistique,
okay.
Toujours. Avant, je voulais être chanteuse et j'étais persuadée que j'allais finir dans la musique. Donc du coup, ça a toujours été mon rêve.
Et aujourd'hui, tu chantes?
Oui, je chante.
Tu composes de la musique,
oui,
on en
aussi.
Parlera. Mais...
Donc finalement, c'est un peu ça. Mais oui, j'ai fait du droit finalement pendant 5 ans. Mais j'ai toujours eu l'idée et la conviction que je finirais par faire de l'art.
Et tu as fait du droit avec une conviction que tu allais faire de l'art?
Ah oui, complètement.
Et pourquoi tu n'as pas fait de l'art plutôt que de faire du droit?
Parce que à l'époque, une conseillère d'orientation m'avait dit que ce serait bien de faire du droit.
De faire un vrai métier, tu veux dire?
En quelque sorte.
Entre guillemets, un vrai métier,
voilà.
Entendons-nous.
En tout cas, de ne pas me fermer de porte. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, puisqu'on me le dit, je vais le faire. donc voilà, j'étais assez scolaire, assez studieuse. Donc je me suis dit, on me dit de faire ça, je m'exécute. Donc j'ai fait ces 5 années de droit pour finir quand même vers une filière un peu plus artistique parce que j'ai fini en droit du cinéma. Donc ça m'a ouvert quand même quelques portes. Mais toujours... J'ai toujours fait mes études en faisant beaucoup d'art à côté, du théâtre, de la musique. J'ai jamais oublié cet aspect-là pendant mes études.
Ok.
Donc voilà.
Et toi, Bastien, de ton côté?
Moi, de mon côté, je suis assez... en fait, moi c'était une obsession en fait, de vouloir faire des films. Donc, j'ai tanné suffisamment mes parents depuis ma plus tendre enfance pour qu'ils comprennent que ça serait ça et pas autre chose. Donc, ils m'ont soutenu, même si ça leur faisait très très peur et qu'ils auraient préféré que je fasse une école de commerce. Ils m'ont soutenu, même contre l'avis des profs, tout ça. Donc, ça, c'était cool parce que c'est pas toujours le cas. Donc, j'ai eu de la chance. Et donc, après le bac, je suis monté à Paris. À la capitale pour pouvoir faire une école de cinéma. Donc j'ai fait l'ESRA. Et puis voilà, depuis, j'ai fait plein d'autres choses. Après, on a fait une école de. Après ce cursus-là, j'ai fait une école d'acting parce que j'avais envie de peaufiner un peu mes recherches sur le. J'aimais bien aussi être devant la caméra, j'aimais bien faire les deux. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une école, même si ça me terrorisait. C'est d'ailleurs mes parents. Qui m'ont conseillé de faire une formation parce que j'étais un peu perdu après l'ESRA, je savais pas trop.
Ouais, t'ont conseillé de faire une formation pour passer devant la caméra.
C'est fou, ouais. C'est vraiment, c'est eux qui m'ont dit. En fait, vraiment après l'ESRA, je dis comment est-ce qu'on commence une carrière là-dedans? Est-ce que je postule dans une boîte de prod? Je faisais des petits films, des petits trucs, des petits courts-métrages et tout, mais j'étais un peu paumé. Et je faisais des petits boulots à droite à gauche et c'est là qu'ils m'ont dit, mais. T'adores jouer, fais une formation d'un an, 2 ans, ça pourra que te servir et tout. Ils ont eu une super idée parce que c'est là que j'ai fait l'Actors Factory à Paris et c'est là que j'ai rencontré Célia.
Célia qui, elle, s'était retrouvée après tes études de droit, c'est ça, à dire tiens, je vais essayer de bifurquer.
Ouais, enfin moi je savais déjà pendant les études de droit que je voulais être actrice.
Ah, tu voulais être actrice?
Ah, oui.
Tu voulais plus être que musicienne ou...
Non, c'était là, mon obsession, c'était être actrice.
Ok.
Et du coup, j'avais eu la chance de jouer dans quelques courts-métrages étudiants et même un peu plus pro pendant les études de droit. Et je m'étais dit, oh là là, c'est moi, c'est fait pour moi, je veux faire ça. Et du coup, j'ai fini mes études, j'ai fait un stage en prod, on m'a proposé un job. Et là, j'ai dit non, J'arrête.
En prod, pour les gens qui ne savent pas, mais c'est derrière la caméra pour le coup, et vraiment ouais, là, dans la production vraiment, du film, quoi, dans la création du film, et pas à côté artistique, c'est plutôt
ça. Moi, c'était
côté
plutôt
financier,
côté,
organisation.
Ouais, contrat,
tout
administratif, tout ça. Et j'ai dit non, je veux vraiment être actrice. Et donc, du coup, tout de suite, je suis partie sur tout ce qui est figuration. Pendant un an et demi, j'ai lutté, j'ai eu mon intermittence. Et dès que je l'ai eu, je me suis dit, bah, je vais faire une école. Et c'est tombé sur l'Actors Factory. Et donc, c'est là que j'ai rencontré, enfin, qu'on a rencontré tous nos amis acteurs d'aujourd'hui et qu'on s'est rencontrés tous les deux. Donc, c'était vraiment une chouette expérience.
Comment vous venez de votre rencontre ? Voilà, on peut le dire, vous êtes en couple. C'est
oui.
pas.
Non, on peut le dire.
C'est
le
pas. Dire. Donc, il y a une rencontre. Non, mais en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une rencontre amoureuse, j'imagine, avant qu'il y ait une rencontre. Artistique.
Oui, complètement. Il y a,
d'abord il y a quand été... même plus une rencontre artistique avant.
Mais, j'ai l'impression d'être texte dans les amours. Alors.
On s'est d'abord apprivoisé sur la première série de Bastien, où on jouait des ex, en fait, dans cette série. Et je trouve que c'est vraiment là qu'on est devenus amis et qu'on a appris à se connaître autant artistiquement qu'en tant qu'humain.
Même si je faisais des choses très différentes
de ce
qu'est la vie douce aujourd'hui.
Très différent, mais j'avais déjà perçu en lui cette espèce de génie. Enfin, moi, que j'ai vraiment, je m'étais dit, il a vraiment des idées incroyables et c'est avec ce genre d'énergie, ce genre de personne que je rêverais de travailler. Quoi. Et on a formé une troupe d'acteurs à ce moment-là qui était déjà... génial.
Ouais.
Et c'est là qu'on s'est vraiment. On était amis avant d'être amoureux.
Ouais. Et ouais, donc on faisait cette petite série.
Et toi, Bastien, de ton côté, quelle est ta version de l'histoire ?
Non, mais
toi, tu voulais la pêcher au jour 1.
Mais non, mais même pas parce que. Déjà, elle était en couple. Puis, et puis moi, elle m'impressionnait beaucoup. Moi, je suis plutôt du genre timide, à pas trop oser parler aux jolies filles. Donc, je faisais ma petite série dans mon coin avec un copain on m'a fait l'honneur, les gens qui étaient à l'Actors Factory m'ont fait l'honneur de jouer dans la série, dont Célia. Et voilà, c'est ça, c'est en fait, on a lié des liens assez forts. Et en fait, même après le cursus, on a eu cette envie Moi, j'avais cette envie de faire un long métrage. J'avais cette espèce d'obsession de me dire je vais faire un long métrage après mon école d'acteur. Et donc, j'ai écrit quelque chose et on est parti avec certains des acteurs. Et en fait, c'est même à ce moment-là, à peu près, qu'on a commencé à vraiment se mettre ensemble avec Célia. Et elle m'a vraiment, on pourrait dire qu'elle a co-réalisé le film avec moi, même si... au début, il y avait une espèce d'ego qui a fait que si je voulais que ce soit marqué réalisé par Bastien Garcia seulement. Mais elle m'a vachement épaulé dans la réalisation de ce projet. Et après ce projet-là, qui a été difficile parce que le film...
Attends, je t'arrête là, oui, mais c'est trop intéressant cette histoire d'ego.
Ah oui, oui.
Parce que j'imagine que, en fait, vous faites le même métier, l'air de rien. Même si vous êtes complémentaires et tout, vous faites quand même le même métier.
Clairement.
Et ça doit être un peu complexe de réussir à... Parce que pour moi, de ce fait-là, il y a plusieurs... Vous avez plusieurs liens à ce moment-là. Vous avez un lien professionnel, vous aviez un lien amical et vous avez un lien amoureux.
Ouais.
Il faut réussir à démêler les trois pour réussir à...
Ça a été un long cheminement hein,
pour moi.
Oui, surtout pour toi.
Ouais.
Pour arriver à trouver cet équilibre. Justement par rapport à l'ego, par rapport à notre place. Et je pense que la vie douce a vraiment soudé et non, a donné naissance vraiment à l'équilibre professionnel de notre binôme et de ce qu'on allait en faire et de ce qui allait...
ça a même eu un impact sur notre couple, positivement. C'est ça qui est fou, c'est que ça nous a vraiment fait travailler sur l'acceptation de laisser quelqu'un d'autre rentrer dans ta vie, dans ta bulle, et de te dire c'est ok, tout va bien, et en plus ça va être juste mille fois plus nourrissant et inspirant
Ok. Non, je sais pas, j'avais l'impression que t'allais
non, 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 mais c'est vrai que c'était un truc qui était pour moi qui était. Sur l'ego, ça m'a fait vraiment, vraiment travailler, quoi. Parce que j'avais vraiment ce concept, pour moi, c'était voilà, ça sera, je vais faire des films tout
seul. Tu voulais Stanley Kubrick, quoi.
Ouais, mais ouais, je pense qu'il y avait un peu, de ça. Hein. Je pense que on a envie d'être. Souvent, la création, c'est rare qu'on pense à la création. C'est souvent des personnalités uniques, surtout dans le milieu du cinéma. Quoi. Il y a des égos qui sont très forts. Et voilà, c'est souvent les modèles qu'on a. C'est rare que ce soit des couples quoi, ou des duos. Tu as quelques duos, tu as les frères Cohen, les frères Dardenne et les choses comme ça. Mais.
Ils pensent plus du tout comme ça. Hein. Parce que là, on dirait que.
Ouais, non, je pense plus. Et en fait, ça a tout changé, en fait. Ouais. Et c'est trop bien, quoi. Mais ça, c'est un processus de.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
De fou.
Et toi, comment tu le vivais de ce fait-là que. Tu vois, à ce moment où tu participes énormément au long, tu vois, ou en tout cas à la création du long, et qu'à un moment donné, Bastien se dit non, c'est moi, je veux que ce soit écrit, réalisé par machin. C'est trop intéressant. Comment tu trouves ta place dedans ?
Bah, au début, je pense que je me suis pas trop posé la question parce que je pense que pour moi, c'était déjà incroyable d'entrer là-dedans et parce que j'avais aussi cette ambition de réaliser, d'être là-dedans depuis longtemps. Mais je pense que j'avais pas le courage de me lancer
et de t'affirmer comme.
Ouais, et je me sentais pas les épaules, en tout cas, de mener un projet toute seule dans la réalisation. Du coup, pour moi, de créer déjà un binôme dans la réalisation, c'était déjà. Énorme, même quand j'étais entre guillemets l'assistante réalisateur sur ce long métrage. Donc je me suis pas trop posé la question. C'est plus oui, après quand.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On a décidé de monter un projet ensemble, où là, c'était clair qu'il fallait mettre les points sur les i et se dire, OK, cette fois-ci, c'est un projet à deux, on s'apporte autant mutuellement. Donc voilà, il faut mettre les choses au clair et se dire que. Enfin, vraiment, oui, oui. Mettre les choses à plat. Mais sinon, je ne l'ai pas. Enfin, pour l'histoire du long métrage, ce n'est pas quelque chose que j'ai mal vécu ou alors je ne me rappelle plus. Mais je crois.
Non, c'était. Et en fait, oui, le problème, ce n'était pas un problème à cette époque-là.
Non.
C'était plus vraiment quand on a décidé de créer cette série où là.
C'est posé la question.
Tu parles de La Vie Douce ?
Ouais.
C'est ça ?
Oui, là, voilà, La Vie Douce, à ce moment-là. Moi, au début, j'étais encore un peu dans ce truc de chérie, j'ai une idée de série, machin. Et c'était encore un peu ce truc de ce sera la série de Bastien Garcia en tant que réalisateur et je vais te filmer, tu seras une actrice du truc. Et sauf qu'en fait, plus ça avançait et plus elle en faisait autant que moi. Si ce n'est plus, et on faisait tout quoi, et c'était, j'aurais juste été un sale con si j'avais continué à croire que c'était juste mon projet quoi. Donc c'est devenu une évidence finalement qu'on était co-réalisateur, co-scénariste, co-metteur en scène, co-tout quoi. Et
comment naît l'idée ? C'est donc à la base, c'est toi qui as cette idée de se dire ok, on pourrait mettre en scène des gens, c'est ça ?
Oui, non, en fait, je crois que c'est surtout né d'une angoisse que moi je pouvais avoir particulièrement. Qui était de me dire, putain, là, on a passé 2 ans de fou. Moi, c'était l'absence de projet qui m'angoissait terriblement. C'était
vraiment. Vous sortiez de votre école, c'est ça ?
Complètement. Okay. On est sorti de l'école, on avait fait ce long métrage tous ensemble. C'était une expérience de fou. Et puis, tout à coup, pendant un an, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'on n'est plus en contact de ces gens, de ces acteurs avec qui on avait passé tout ce temps et réalisé ce projet. Et là vraiment moi c'était une angoisse parce que moi j'étais un peu un hyperactif de la création et je me disais il faut avancer, il faut monter des projets, c'était même presque obsessionnel. Je sais que c'est là je la saoulais beaucoup, c'était vraiment une angoisse quoi.
Oui, dit-elle.
et donc je lui ai dit il faut qu'on fasse un truc sur YouTube parce que je sais que si on fait une série on va être obligé de créer régulièrement et surtout de retrouver le contact des gens qu'on aimait et avec qui on aimait travailler. Et ça, c'est juste encore plus essentiel. Enfin, pour moi, c'est l'essentiel, en fait, de d'avoir ce groupe et de, quand on est artiste et qu'on a envie de créer des choses, c'est tellement essentiel d'avoir une, je pense, une bande et d'avoir des gens avec qui on aime travailler, etc. Et donc, c'était pour retrouver ce truc.
Oui, et parce qu'au départ, c'était pas tant, il n'y avait pas l'ambition de la série qui dure dans le temps, de faire 70 épisodes. Vraiment, le but premier, c'était, OK, on va créer un laboratoire d'acteurs, on va retrouver cette espèce d'ambiance qu'on avait à l'école où on pouvait tester des choses, où on pouvait s'amuser, où on pouvait improviser, où on pouvait se faire plaisir. Et c'était vraiment retrouver le kiff de travailler ensemble, de faire repartir le moteur de la création et de se retrouver, vraiment ouais. De créer quelque chose tous ensemble. Et je pense que c'était vraiment ça l'idée de base. Mmh. Il y avait pas, on parlait de série. Mais c'était pas tant. Enfin, tu vois, ça allait pas dans le. C'était 10 épisodes, tu vois.
Oui, au début, on voulait pas faire juste une saison de 10 épisodes.
On voyait pas plus loin. Et au final, bah, tu vois, on s'est pris au jeu et.
Et d'ailleurs, il y a le. Sa personne ne l'a encore jamais vu, mais peut-être qu'un jour, on le ressortira. Mais je crois que Célia, elle est pas très d'accord. Mais on a fait un épisode pilote et qui ressemble, mais pas du tout. Enfin. Qui ressemble un peu, mais qui ressemble vraiment très peu à ce qu'on fait aujourd'hui, quoi.
Ouais, parce que en fait, on a vraiment trouvé notre patte en faisant. Mmh. Enfin, il y a quand même des choses dans les premiers épisodes qui nous ressemblent aujourd'hui, mais vraiment, la série a évolué avec les épisodes, avec le fait de faire, et on s'est vraiment trouvé en travaillant ensemble, parce que c'était la première fois que vraiment on faisait un travail à 50%, et en bossant, quoi.
Ouais, en testant des choses, ouais. en foirant des trucs, et puis en se disant, ah putain, ça c'était bien. Ça, j'ai bien aimé.
Ouais.
Genre, là, le monologue qu'il y a eu pendant 5 minutes, genre, jamais j'aurais pensé que ça pourrait marcher. Et en fait, ça marche de fou. Donc, vas-y, on va s'autoriser à retenter ce genre de choses. Ouais. Alors que l'épisode pilote, il durait peut-être 3 minutes. Il y avait déjà cette idée de gros plans et de gens qui discutent. De sujets assez intimes, mais c'était hyper hyper écrit, c'était à la virgule près.
Bah, les premiers épisodes étaient très très écrits. Hein.
Ouais, la première saison est hyper écrite en fait.
Ah ouais?
Ah ouais, ouais, de fou.
Ça se voit pas.
L'épisode 13, je crois, 13-14, c'est 10-13 pages de scénario.
Ah yes, ouais. Ok. Je vous invite vraiment à les gens qui nous écoutent, je vous invite vraiment à aller regarder les premiers épisodes parce que pour moi, ils donnent tout de suite la patte, en tout cas en termes de réel, de ce qui se passe. Si je ne me trompe pas, le premier épisode,
c'est Jimmy.
C'est Jimmy qui est en train d'assister à un cours
de
boxe sur les quais de la Seine, enfin un entraînement. Ouais. Et en fait, il y a une discussion qui s'ensuit. Enfin, c'est vraiment. Ça pourrait être. Dans la vie, quoi. Tu vois, tu es en train de regarder des gens et les gens viennent te causer et en fait, ça se passe comme ça, quoi. Ah ouais, ok, je savais pas que c'était écrit parce que vraiment ça se ressent pas, quoi.
Cool, tant mieux.
Non mais oui.
Mais c'est bien.
Ça c'est un truc qui est important pour nous, c'est qu'on sente pas trop
l'écriture. Quoi. Bon, on s'en est détaché après, mais en tout cas au début c'est quelque chose on avait appris comme ça, donc de toute façon l'époque on n'avait pas c'est pas le courage le terme, mais on n'avait pas la confiance. Suffisante pour travailler autrement que comme ça.
Avec un texte hyper élaboré, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est un truc qui m'a marqué, je crois qu'il marque beaucoup de gens, c'est que on a un peu l'impression que vos acteurs, vous les dirigez pas vraiment, dans le sens où on sent que, ok, le sujet, ça va être ça, et en fait, il faut à un moment donné que tel personnage, il aille de ce point-là à ce point-là, puis toi, tu vas de ce point-là à ce point-là, et puis, roule, discutez comme si vous étiez dans la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe, plus ou moins.
Il y a de ça, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où, en fait, déjà, nos acteurs, on les connaît, c'est des amis, on les connaît très très fort, enfin très bien, on les connaît pas par cœur, parce que c'est un peu présomptueux, mais on les connaît tellement fort.
Vous connaissez depuis 5 ans maintenant, 6 ans.
Depuis 2015.
Moi, je les considère comme des cousins, quoi. Enfin, on est vraiment proches. On a vécu des choses assez fortes. Et en fait, il y a ce truc où on sait ce dont ils sont capables et ce vers quoi on peut les amener et ce vers quoi on peut. Faut mieux éviter de les emmener parce qu'on n'a pas envie de les mettre mal à l'aise ou de voilà. Mais parfois, en fait, de même, ils sont hyper forts et ils vont parfois dans des trucs auxquels on s'attendait pas et c'est... Donc oui, on les guide, il y a beaucoup de discussions.
Et puis on sait quand même ce qu'on veut. C'est-à-dire que si sur un tournage, on a pas eu ce qu'on voulait, on va refaire jusqu'à ce qu'on ait vraiment ce qu'on recherchait. Mmh. Même s'ils sont incroyables et que la plupart du temps, on n'a pas grand-chose à leur dire. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce d'alchimie qui fait que on se comprend, on sait ce qu'on attend. Eux, on sait s'adapter à eux aussi. Et du coup, ça crée quelque chose d'assez naturel, spontané. Et...
Ouais, mais c'est pas gravé dans le marbre, quoi. C'est assez organique.
Ouais.
Et
oui, c'est-à-dire qu'il peut très bien... En fait, on pourrait être en train de filmer là et qu'en fait, ça serait un épisode. Limite.
Ben oui, si après tout dépend du sujet.
Avant l'enregistrement, on a eu une galère de micro. En fait, ça pourrait rentrer dans le
ah
truc.
Ah oui, ça carrément. Oui.
Ou alors si un acteur qui fait tomber un truc, vous allez pas cut, vous allez continuer à faire. Ah putain merde, j'ai fait tomber ça. Et en fait, ça, il y a un côté, ça donne un côté très naturel à la discussion. En
complètement.
Fait.
Il y a un point de départ, mais après, s'ils veulent
liberté.
Bifurquer complètement. Qu'ils le sentent comme ça, et c'est vrai que parfois on a eu des surprises et on a eu des scènes incroyables à nos yeux, parce que justement ils se sont permis et qu'on leur donne quartier libre, et qu'en fait encore une fois je pense que c'est ça aussi un bon acteur, et même je pense que notre place de réalisateur réalisatrice, c'est, je trouve que c'est cool de pouvoir dire à un acteur je te fais confiance, et en fait il sait ce qu'il doit faire, l'acteur, et c'est ça qui est fort. C'est, je m'exprime très mal, mais voilà, et c'est lui qui va amener des choses.
Il a une grande force de proposition et de liberté, et je pense que ça, ils aiment beaucoup travailler comme ça aussi. C'est aussi pour ça qu'ils aiment travailler avec nous. C'est pour cette liberté de jeu.
Ok. Donc ça fait 3 ans maintenant que ça dure. Vous avez, en fait, la série, elle reflète vraiment la vie, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes pendant le Covid. Vous avez vraiment réussi à trouver un truc autour du confinement. Après le Covid, enfin, les personnages y portent des masques, comme dans la vie, quoi. Enfin, l'un de vous deux, je vous entendais dire, pour nous, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire une série qui durerait toute la vie, quoi.
C'est le fantasme.
C'est le fantasme.
Ouais.
Après, on n'est jamais à l'abri de se lasser ou de vouloir faire d'autres choses en priorité. Mais c'est vrai que le fantasme et l'envie actuelle, c'est de se dire, viens, on fait ça toute la vie, quoi. C'est clair.
Ouais, ça serait cool.
Et pour l'instant, c'est... Bon, ça fait que 3 ans, mais c'est bien parti pour. En tout cas, on est hyper bien accompagnés. Enfin, nos acteurs nous suivent coûte que coûte. Et c'est trop chouette, on a des rapports extra avec tous, donc ça peut continuer longtemps, quoi.
Ouais, c'est...
Vas-y.
Non, pardon, en plus, il y a ce côté où, en fait, on fait des rencontres et on inclut des gens au projet au fur et à mesure qu'on fait des rencontres. Parfois, ça va être l'ami d'un acteur qu'on va rencontrer, qu'on va dire, putain, il est marrant, lui, il a une bonne gueule. Et en fait, c'est un peu notre vie sociale, en fait, cette série. Et ça l'est devenu, en fait. C'est ça qui est trop bizarre, c'est que c'était pas du tout censé être comme ça au début. C'était vraiment juste censé être une petite série, qu'on ferait des petits épisodes de temps en temps. Et en fait, c'est tellement intégré à nos vies que ce concept de se dire, mais en vrai, on pourrait la poursuivre le plus longtemps possible. Et c'est ce qui se passe, en fait. Mais peut-être que, comme tu dis, peut-être qu'un jour on se lassera, mais pour l'instant, c'est comme ça, quoi. C'est un projet vraiment du quotidien.
Et il y a des traits de personnalité. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je me suis dit, ok, il y a des traits de personnalité des acteurs, donc pas des personnages, qui finissent par se refléter aussi dans les personnages. Vous avez vraiment voulu aussi calquer certains. Enfin, de ramener vraiment de l'authentique, en fait, dans les persos.
Oui, après, chaque acteur fait un petit peu comme il veut. Il y en a qui s'éloignent de leur personnalité. Mais c'est vrai que nous, on les choisissait aussi pour ce qu'ils étaient et pour leur personnalité. Donc souvent, on leur demande quand même de prendre dans leur trait de personnalité ce qu'on aime nous et ce qui nous fait ressentir des émotions. Donc oui, souvent, ça se calque. Mais ça peut aussi... Je trouve que ton personnage, par exemple Bastien, est quand même assez différent de la réalité. tout comme mon personnage. Enfin, en fait, on choisit des aspects de la personnalité de l'acteur, du vrai acteur, mais ça reste assez fictif parce que finalement, ce n'est qu'une partie de ce qu'il est dans la vie.
Mais ton perso, il joue de la musique.
Oui.
Il compose des morceaux.
Oui, mais il est aussi professeur de piano, ce que je ne suis pas du tout. Il est célibataire. Enfin, il y a vraiment plein d'aspects que j'ai dû jouer dans la série qui ne correspondaient pas du tout avec ma vie actuelle. Et pour d'autres personnages, c'est le cas. Soit ils revivent des choses qu'ils ont vécues, soit ils se projettent dans des choses qu'ils n'ont pas vécues. Enfin, c'est vraiment un mix entre ce qu'ils peuvent être vraiment et des fantasmes aussi, des choses qu'ils ont envie de jouer, d'expérimenter. Enfin, il n'y a pas vraiment de recette.
Mais on ne va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de...
Oui, il y a beaucoup de nous.
Ton perso enregistre un album. Ton perso enregistre un album, un EP.
Oui, tu fais de la musique.
Oui,
bah,
avec un groupe plus ou moins fictif.
Mais qui a fini par donner des vrais morceaux.
Qui a fini par donner un morceau.
Un morceau.
Mais voilà, c'est pareil, ça pourrait exister. Parce que nos relations sont réelles, parce que cette chanson existe, parce que nos rapports sont réels. Après, c'est quelque chose qu'on a fait pour la série et qui n'existe pas réellement dans la vraie vie. Enfin, c'est... Tu vois, du coup, c'est assez tout ce...
Mais peut-être qu'un jour, ça existera.
Mais peut-être que ça existera, tu vois. Finalement, il y a des choses qui se créent, qu'on n'avait pas prévues, qui nous plaisent vraiment dans la vraie vie.
Vous vous rencontrez à ce moment-là.
C'est ça.
Ok, putain.
C'est comme nos relations. Dans la série, il y a des gens qu'on a rencontrés et qui sont devenus nos amis dans la série et puis pour qui on a vraiment développé une réelle amitié dans la vraie vie. Enfin, tu vois, tout se mélange un petit peu et du coup... Du coup, voilà.
Ouais, mais après, on va sans dire qui est vraiment en couple ou pas, mais pareil, il y a des vrais couples qui se
Bien
forment.
Il y a des couples qui se sont créés sur, qui se sont créés sur la série.
Attends, j'ai pas envie de dire des bêtises.
Ouais, j'ai pas envie de dire une bêtise non plus. Non, c'est souvent des couples qui se sont créés dans la vraie vie et dont on a repris
que
le.
Que vous avez inclus.
Mais il y en a ses limites quand même.
Oui.
Il y a des trucs qu'on a anticipés, on savait même pas que les personnes étaient ensemble. Ouais.
Ok. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça avec la vie douce. C'est un peu bizarre. Ouais. Ça se passe dans la fiction et puis ça finit par arriver dans le...
Il y a un épisode fabuleux de Lucas qui a une chaîne YouTube qui fait des blagues.
Ouais.
Où il y a un épisode méta où il est en train, dans l'épisode, d'enregistrer une vidéo.
Qu'il a posté ensuite sur sa chaîne.
Avec Timothée Hochet et Xavier. Et où il se retrouve après... Enfin, la vidéo se retrouve postée sur la chaîne.
Oui. Mmh.
Non mais cet épisode est génial parce que moi je connaissais pas forcément son travail et puis après je me suis dit tiens c'est marrant, je suis allé remonter un peu dans son historique pour voir qu'en fait il avait effectivement enregistré vraiment cette vidéo quoi.
Ouais. Mais on s'amuse bien.
Mais d'où ça vous vient? Ouais, c'est ça. C'est...
Bah quand c'est possible et que ça s'est fait un petit peu par hasard. Enfin, on s'est dit on va faire un sketch pour l'épisode et puis le sketch l'a amusé, il s'en est servi pour sa propre chaîne. Et enfin, tu vois.
Ah oui, donc ça se passe dans ce sens-là. C'est pas, ok, il est en tournage, nous on se pointe.
Non. Okay. Ah ben non, non, non.
Bah non, mais je sais pas. Non.
Mais ça aurait pu.
Ça aurait pu. Non, c'est vrai, ça aurait pu.
Il suffit d'avoir
parce
une
qu'on
caméra
a débarqué.
Et...
Voilà, c'est vrai, parce que c'est ce qui s'est passé sur Le Monde à l'envers. On a débarqué pendant un de leurs tournages sans que, tu vois, ce soit prévu à l'avance. Donc ça aurait pu être possible. Mais en tout cas, pour cet épisode, c'était pas le cas.
Mais c'est toujours c'est de jouer un peu avec cette frontière entre le vrai et le faux, la réalité, la fiction. Et en fait, c'est infini. Tu peux faire plein de trucs. Et c'est vrai qu'on aime bien jouer avec ça, quoi. C'est,
Même nous, on oublie ce qui est vrai, ce qui est faux.
ouais, ça rend un peu.
Mais je trouve que ça contribue aussi à. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, mais on n'a pas les ingrédients des grandes séries et tout. Mais en fait, pour moi, en fait, les grandes séries, ce qu'elles font, c'est qu'elles créent des personnages. Auquel tu finis par t'attacher.
Mmh.
Et en fait, vous n'avez rien fait d'autre que ça, quoi.
Oui, c'est vrai.
Des personnages auxquels on finit par s'attacher et dont on suit les histoires. Parce qu'en fait, c'est que ça, quoi. Tu vois, si tu prends Breaking Bad, en fait, c'est l'histoire de Walter White. La vie douce, c'est l'histoire de Célia qui, à travers sa vie de jeune trentenaire, quoi. Tu vois.
Ouais.
Et tu la vois évoluer au fil des années, etc. Donc en fait, c'est captivant. Il y a des personnages que t'aimes, d'autres que t'aimes moins. Enfin, en fait, pour moi, c'est...
Oui, c'est clair.
C'est une série, quoi. Enfin, c'est une histoire.
C'est créer des personnages, en fait.
C'est vrai.
Même plus que de raconter des histoires, c'est... Bon, en même temps, quand tu crées des personnages, tu racontes des histoires, mais... Les gens s'attachent peut-être plus aux personnages qu'à l'histoire. Je sais pas. C'est un vrai...
Et alors, l'autre truc aussi, c'est que... Enfin, moi, ce que je trouve génial, c'est vraiment l'authenticité de ces dialogues qui sentent tellement le vécu, dans le sens où, et là c'est un gros compliment que je vais vous faire, mais pour moi ça me fait penser au film de Linklater, dont j'ai pu, je crois pas que j'en ai déjà parlé dans l'histoire du succès, mais en gros il a fait notamment une trilogie avec Julie Delpy et Ethan Hawke, ouais. Où les trois films ne sont que entre guillemets des longs travelling ouais. Et des longues séquences
de discussion.
Voilà, où ils discutent ensemble en fait. Et toi, t'es là et t'es juste en train de les suivre. Et c'est marrant parce qu'il a un peu ce truc-là, ce rapport au temps aussi, où il enregistre les trois films sur trois décennies différentes.
Complètement, ouais.
Donc il y a aussi cette évolution des personnages où on suit. Enfin, moi, je me suis vachement retrouvé là-dedans. Pour le coup, j'adore cette trilogie, quoi. Ça s'appelle Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, pour les gens qui ne connaissent pas.
Il y a Boyhood aussi.
Boyhood, meilleur film. Très bien. Qu'il enregistre pour le coup sur 12 ans
enfin, ouais.
des 6 ans du gamin aux 18 ans, et c'est les mêmes acteurs.
C'est ça, tu les vois
vieillir. Grandissent.
Et c'est assez fort. C'est impressionnant, ouais.
L'autre truc dont on n'a pas parlé, c'est que vous commencez par des épisodes qui font entre 5 et 10 minutes, et au fil de l'eau, vous allongez un petit peu le truc. Donc c'est vrai qu'effectivement, après tu te retrouves à te dire « Putain, en fait, je viens de passer une demi-heure devant un épisode que je n'avais pas forcément prévu. » C'est toujours très agréable, tu sais. Mais surtout, vous avez lancé des formats longs qui viennent aussi, qui ont une importance un peu particulière dans votre système et dans votre modèle. Vous avez créé une boîte de prod.
Oui.
Donc là, vous avez professionnalisé le truc. Et ces formats, en fait, on peut les louer, en fait, ces formats longs plus spécifiques.
Oui. En fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que les formats longs, c'était cool. On a fait un premier épisode de 20, 25 minutes, puis 30, puis 40. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment chouette de faire ça. Et on a eu assez vite l'idée de se dire, mais il faut qu'on fasse un long métrage dans l'univers de La Vie Douce. Un film qui durait entre une heure et une heure et demie. Et on s'est dit, ça pourrait être un moyen de peut-être de créer un petit modèle économique. Et les gens qui aiment vraiment la série pourraient peut-être mettre quelques euros pour pouvoir voir ce long format. Et donc on a créé notre petit site et là on a fait trois longs formats et ce qui est cool, c'est qu'on fait même maintenant des petites projos. T'es venu d'ailleurs?
Oui, je suis venu à la dernière projo, c'est génial.
Et ça c'est cool aussi parce que ça nous a
Vous avez rempli une salle de combien là? 300?
C'est un peu moins de 250. 230. Ouais, c'est ça, 230.
Mais la dernière fois c'était encore plus.
Ouais,
c'était au Max Linder.
C'était fou.
C'était la première fois, donc en plus c'était d'autant plus impressionnant pour nous.
Il y avait
500 personnes qui sont venues et c'était
ouf. Et c'était la première fois vraiment qu'on rencontrait aussi
votre public.
Notre public. Ouais. Et ça c'est ouf.
C'était très très fort.
C'est justement un peu la limite qu'il peut y avoir parfois avec YouTube et le monde virtuel. C'est que tu rencontres difficilement ton public. Et là, de prendre conscience, de voir 500 personnes, c'est énorme, 500 personnes, puis 230 personnes qui viennent voir ton petit projet, ça fait drôle, en fait.
Ouais.
Et ça permet de rendre le truc palpable et de se dire... Et puis même de discuter avec eux, ça donne grave des forces. Quoi. Et ça,
C'est quoi les retours des gens? Parce que moi, j'ai jamais vu des commentaires aussi dithyrambiques sur une série, quoi, où les gens sont... À fond, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés dans le sens où vous avez quoi, 25 000 abonnés,
20
000. C'est ça ?
20 000.
20 000, ouais. Ça mériterait plus en fait, mais c'est juste que les gens qui sont là, ils sont vraiment là, quoi.
Ouais, les gens sont,
ça, c'est fou,
ils sont adorables. Enfin, quand on fait des projos, souvent c'est rigolo parce que les gens qu'on croise, ils nous disent « Ah, je suis venu de Normandie, ah ben moi je suis venu de Lille, ah ben moi je suis venu de Nantes. » Et nous on est là, mais sérieux ? T'as fait tout ce chemin pour venir voir le film et qu'on puisse discuter un petit peu. Enfin, c'est fou déjà. Et après, ils nous disent, mais bien sûr, mais moi j'adore et je serais prêt à mettre même 20 euros pour venir voir le film. Et nous, ça nous scotche.
Je crois qu'on a un peu du mal à réaliser, même à accepter ce truc, ce tout petit succès. Enfin, c'est pas grand-chose, mais enfin, en tout cas, c'est fou en fait d'avoir des retours comme ça. Nous-mêmes, on réalise pas trop en fait, et on est trop content de se dire que ça touche des gens.
Ouais.
C'est fou en fait.
C'est clair.
C'est fou.
On fait ça pour quelque chose.
Ouais.
C'est bien, on touche des gens.
Et ouais, c'est de comprendre pourquoi ça touche à ce point les gens. C'est d'avoir des, ouais, comme tu dis, des retours, des commentaires. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous écrivent des mots d'amour fort, fort, fort. Et c'est toujours difficilement, parce que quand tu es dans la création du truc, tu as un peu la tête dans le guidon et en fait, tu as du mal à prendre du recul sur ton travail. Et parfois, il y a des trucs, tu te dis, oh là là, c'est nul ou cet épisode, il nous fait chier. Et puis en fait, tu as des retours qui sont complètement à l'inverse de ce que toi, tu peux ressentir. Et tu sens qu'il y a des gens, ça les touche, mais au plus profond de leur être. Et là, tu te dis, mais waouh, c'est trop bien, quoi.
Ouais. Vous parlez de sujets dont on ne parle pas beaucoup, en fait. Hein. Vous parlez beaucoup d'amour, vous parlez beaucoup d'amitié. Mm-hmm. Il y a plein de sujets autour de ça. Il y a un perso, je ne vais pas vous spoiler, mais qui a aussi un parcours génial. Un mec qui va vers un parcours de drag queen, enfin, ce qui est complètement fou, quoi.
Ouais.
Pas du tout prévu. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ces sujets-là en particulier?
Franchement, c'est pour l'univers des drag queens, par exemple, c'est complètement par hasard à la base. C'est Paul qui a évoqué le sujet lors d'un épisode. Et du coup, on s'est dit...
C'était pas écrit, ça?
Non.
Non,
c'était pas du tout écrit. Il a évoqué, what? On s'est dit, mais trop bien.
Parce qu'il avait du vernis sur les ongles.
Il avait du vernis sur les ongles, c'est parti de là. Il a évoqué le fait qu'il aimait bien tout l'univers du drag. Donc du coup, on s'est dit, oh, trop chouette. On s'y est intéressé. Ça a évolué parce qu'on avait aussi un autre acteur dans la vie douce qui adorait l'univers drag. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on a exploré. Et puis on a rencontré Romain Cookie, qui nous a ouvert les portes de ce milieu-là. C'était incroyable. Et là, on a pu encore plus explorer, approfondir. Et là, on a pu traiter du sujet d'une manière un peu pudique. Mais on a pu vraiment en parler quand même, entrer dedans. Et du coup, c'est arrivé comme ça. Mais c'est vraiment... En fait, souvent, quand il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça, on y va. Parce qu'on se dit, c'est pas arrivé là par hasard. Et on se dit, c'est l'univers qui a fait qu'on a mis ça sur notre route. On verra où ça nous mène. Et là, il y avait trop de choses qui ont fait qu'on devait aller vers l'univers drag, que ce soit Paul qui nous en parle, le fait qu'il soit vraiment intéressé par ça et qu'il se dise « Ah, j'aimerais bien, ça me tente bien d'essayer tout ça. » L'autre personnage, Ben, qui lui adore ça, qui connaît Cookie. Enfin, au final, on se dit « Mais c'est extraordinaire. »
La série, mais vraiment, elle
fonctionne comme ça.
Elle se crée un peu d'elle-même, ça qui est fou. C'est que je crois que le seul truc vraiment bien qu'on ait fait, c'est qu'on ait accepté de faire rentrer les accidents, les petits accidents dans la série. Tu vois, les hasards, les imprévus, voilà, tout ce genre de choses, et de les écouter à fond et de se dire ah tiens, ça c'était pas du tout prévu, mais clairement ouais, essayons de l'exploiter parce que ça peut nous aimer. Et en fait, cette espèce d'intuition comme ça de se dire allez, on lâche prise, en fait. On lâche prise et on essaie d'accepter les choses comme elles viennent. Mais ça nous a amené un milliard de trucs complètement fous, en fait. Mmh. Et c'est ouf.
Sachant qu'en plus, ce perso Paul, il est à l'opposé du cliché qu'on pourrait avoir du mec qui s'intéresse à l'univers des drags. Puisque dans la série, je sais pas s'il fait de la boxe dans la vraie vie.
Champion.
Ah ouais, il fait de la boxe taille, quoi.
Ouais, il fait de la boxe taille.
Très, très loin du cliché qu'on pourrait avoir en tête, quoi.
Ouais, mais Paul est comme ça dans la vie. Hein. C'est un électron libre qui est ouvert à tout,
qui s'intéresse,
qui est très loin du cliché qu'on peut se faire quand on le voit peut-être au premier abord. Mmh. Mais vraiment, il est comme ça, quoi. Il est ouvert à tout et il est hyper curieux. Donc voilà, c'est beau. On a aussi des beaux humains, en fait, avec nous. Donc c'est vraiment chouette d'être entouré par des personnes aussi inspirantes. Franchement, ils sont tous méga inspirants. Enfin, on n'a que des êtres humains.
Ouais, et puis on se le répète, on se l'a encore redit ce matin, mais ce qui est fou, c'est que ils nous ont offert tellement de leur vulnérabilité, en fait. C'est ça, en fait. Je pense que c'est une d'éléments de réponse que je peux trouver, c'est de me dire qu'en fait, je pense que ce qui touche les gens, c'est qu'ils voient des gens être vulnérables et embrasser totalement leur vulnérabilité. Et montrer leurs failles, leurs peurs, leurs faiblesses, et ils captent que c'est pas juste des acteurs à qui on a donné un script, que derrière c'est vraiment des êtres humains qui s'impliquent à 1000% dans le projet et qui mettent 1000% d'eux-mêmes. Et je pense que ça fait l'effet d'une bombe chez un spectateur, quoi, qui peut parfois avoir l'habitude de séries un peu millimétré, un peu fake, un peu et là ils se disent en fait c'est tellement réaliste que
ça se sent.
Et je pense
en tant que spectateur, c'est clair que ça se sent, quoi. C'est très marrant aussi parce que vous avez fait rentrer des stars de YouTube. Vous parliez tout à l'heure, vous mentionnez tout à l'heure Lucas, le monde à l'envers.
Ouais.
Et puis il y a aussi Kemar,
bien sûr,
qui joue dedans. Comment pour le coup, il faisait pas partie de votre bande, cette bande-là à la base.
Lucas, il a atterri dans notre vie par hasard pendant le tournage du long métrage, okay, du premier. C'était l'ami d'un ami.
Ok.
Enfin, même pas. C'était.
Je mens. C'était sur la première série que je réalisais. Ça. Il nous avait envoyé des dessins de Célia et moi. Et il kiffait la série. Et en fait, on avait trouvé ces dessins trop cool. Et puis, on était rentrés en contact. Et puis, finalement, quand on a tourné notre premier long métrage à la sortie de l'école, on avait besoin d'un cadreur. Et du coup, je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un. Et c'est là qu'il nous a présenté Xavier.
C'est ça.
Et on lui a dit, on prend Xavier. Et on lui dit, on aura besoin de quelqu'un pour faire la régie. Et il a dit, mais moi, je suis trop chaud, je viens avec vous. Et donc, on l'a embarqué avec nous. Et là, on a vraiment...
On est devenu
très amis.
Proche.
Et quand on a lancé La Vie Douce, on s'est dit, il faut que Lucas...
Ah oui, c'était une évidence.
Il soit dans la série, c'est sûr, à 1000%.
On avait trop envie de le faire jouer, parce que... Il est trop drôle.
Il est génial. Et puis, et puis Marc, on s'était croisé sur un petit tournage sur lequel je faisais de la figuration il y a de nombreuses années. Et en fait, il avait vu Strange Cookie, la série, là, ma petite série, et il m'avait dit qu'il aimait bien et que si un jour j'avais besoin d'un acteur ou quoi que ce soit, il était trop chaud. Donc pour moi, c'était un honneur de fou. Et puis quand, pareil, on a fait La Vie Douce, à un moment donné, il était question que Célia ait un date. Et là, j'ai dit, mais ça serait fou qu'on fasse ça avec Kemar, avec qui j'avais pas spécialement de nouvelles, quoi. Il a répondu direct yes. Et puis il est rentré dans l'aventure. Voilà, et il est très chouette humain aussi.
Ouais. Vous avez aussi Timothée Hochet, qui est... Ouais. Mais les gens le connaissent pas très bien, mais Timothée, il est derrière notamment la fameuse série Calls,
ouais,
qui est devenue...
Phénomène.
Qui s'est vendue
à
Apple TV, tout, tu vois.
Ouais.
Comment vous l'avez rencontré aussi, Timothée, c'est marrant.
Par Lucas.
Par l'intermédiaire de Lucas, ouais, okay, du monde à l'envers. Il jouait dans le monde à l'envers, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et on s'est dit, ce mec, il a un potentiel... d'acteurs de fou. Ouais. et on adore travailler avec eux.
Ok.
Ils sont super.
C'est quoi vos projets là?
Hey.
Oh là là.
Alors
oh
nos là projets, là. On a réalisé un long métrage cet été en dehors de La Vie Douce.
Oui.
Et du coup, on l'a fini il y a peu et on s'est dit que cette fois, on aimerait bien l'envoyer en festival. Donc du coup, le projet à court terme, là, c'est d'envoyer ce petit film en festival et de voir où ça nous mène. Donc ça, c'est un de nos projets. Et puis après, La Vie Douce, bien sûr.
La Vie Douce à fond, hein, même si parfois il y a des hauts, des bas, c'est un projet qui prend tellement de place dans nos vies que...
Tellement d'énergie, tellement de soi, tellement de doutes, tellement de...
C'est des projets un
peu... À ce point-là, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on a vraiment l'impression que c'est fluide, mais je me dis que plus c'est fluide pour le spectateur, plus sans doute vous devez galérer, vous, de votre côté, quoi.
Bah disons qu'on est toujours plus ou moins en flux tendu, parce que c'est deux épisodes par mois, deux courts-métrages, plus ou moins par mois.
Qui font entre, généralement, 20 et 30 minutes, quoi.
Voilà. Ouais. Donc, on y met tellement de notre intimité. C'est aussi, enfin, de notre...
Mais
de
c'est
notre...
surtout que c'est, oui, c'est déjà ça, et puis c'est beaucoup de travail.
Ouais,
parce que c'est... En fait, on enchaîne. On n'a pas le temps d'avoir vraiment du recul sur ce qu'on fait ou de se taper sur l'épaule en disant « c'est bien ce que tu fais, quand même, t'as bien travaillé ». C'est tout le temps. Donc du coup, Du coup, déjà, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, tu peux, tu vois, tu tombes sur un mauvais commentaire et te dire, bah, ce qu'on fait, c'est de la merde, en fait.
On arrête tout.
Et on arrête tout.
Ah, vraiment?
Non, je le dis pas, on arrête tout. Mais t'as ce truc de découragement, de se dire, c'est tellement 99% de notre temps que parfois, t'as ce truc de... c'est trop, quoi. On donne tellement que tu peux vite te décourager pour un... Bon, je te dis un mauvais commentaire, c'est rare en plus, mais tu vois, c'est quelque chose qui peut te miner alors que tu donnes tout.
Ouais, puis même le doute de... Mais ça, c'est tout le monde, n'importe qui fait de la création, de se dire, est-ce qu'on aura toujours l'inspiration?
C'est ça.
Est-ce qu'on n'est pas en train de se répéter? Est-ce qu'on prend toujours du plaisir à le faire? Est-ce qu'on le fait toujours pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse autre chose? Est-ce que YouTube, c'est... assez bien, est-ce que on devrait pas faire du cinéma, est-ce que bon, ça on l'a assez vite balayé hein, ces questions là mais on sait que c'est super YouTube et on est trop content de faire ça mais c'est vrai que parfois t'as cette envie de te dire vas-y viens on fait une petite pause on tente d'autres choses. C'est aussi pour ça que je pense qu'on a fait ce petit long métrage là qu'on a tourné l'été dernier, pas du tout avec des acteurs de la vie douce d'ailleurs. Et qu'on va voir où est-ce qu'on peut l'amener. Je pense que c'est important de se nourrir d'autres choses et de faire d'autres trucs, parce que c'est vrai que on est un peu monotache avec la vie douce, ce qui est bien, mais je pense pour notre santé mentale, il faut faire, c'est bien de faire d'autres trucs quoi.
Mais ce qui est quand même fou en fait, c'est qu'aujourd'hui en 2022, vous arrivez à gagner de l'argent avec une web série sur YouTube, quoi.
Ah, mais ça, c'est
incroyable. Autofinancée, autoproduite, voilà, ouais. Quoi.
Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Et ça, c'est vraiment une chance. C'est vraiment l'époque dans laquelle on vit qui est incroyable. Et c'est de se pouvoir se dire que, à deux, bien sûr, avec tous les acteurs avec qui on travaille, mais voilà, avec une petite caméra, deux, trois petits micros, cravate, tu peux créer quelque chose qui potentiellement peut être vu par des milliers de personnes et qui en plus peut te rapporter un peu de sous. On n'en vit pas encore totalement, mais on a bon espoir qu'un jour ce soit le cas. Et juste cette perspective là, elle est folle. Alors que gamin, t'avais ce truc de te dire ben pour vivre de la vidéo, et c'était même pas de la vidéo, c'était vivre des films. Eh ben, il faut travailler avec 50, 100 personnes, il faut avoir une boîte de prod derrière soi, il faut faire des films qui coûtent plusieurs millions, il faut passer par des festivals, il faut passer par la télé, par le cinéma, par des trucs qui te paraissent quand même assez inaccessibles, qui peuvent être accessibles, mais qui sont des parcours semés d'embûches et qui prennent beaucoup de temps. Et là, voilà, on a cette Internet et YouTube, c'est cette fenêtre sur le reste du monde qui est ouf pour pouvoir montrer son travail.
Et les gens peuvent vous financer aussi. Donc, on parlait tout à l'heure de la location, mais vous avez aussi un Tipeee, ouais. Vous avez un Patreon où les gens peuvent vous filer des sous, quoi.
Ouais.
D'ailleurs, on remercie eux parce que notre vie a clairement changé grâce à eux.
Ouais. Ouais. Ah bah oui, c'est clair.
Ils nous permettent en fait de créer au quotidien et de réaliser notre rêve. Et ça, c'est fou, quoi.
Et vous leur offrez le film en avant-première, enfin l'épisode de la semaine.
Ouais. C'est ça.
Une semaine avant tout le monde, quoi.
Et le long métrage aussi.
Et ils ont un code de réduction aussi pour voir
le long métrage,
les longs formats gratuitement.
Ok.
Donc voilà, c'est une petite économie qui s'est mise en place, qu'on a parfois envie de changer, enfin de trouver. La recette, elle est pas encore parfaite. On est toujours un peu dans une réflexion. C'est aussi cette époque où il y a tellement d'outils, les plateformes de dons, créer son site, faire du merch, enfin voilà, tout un tas de choses. Mais ouais, on s'adapte et on essaie de trouver des solutions et c'est cool, quoi. C'est possible, c'est très excitant en tout cas.
Oh bah merci. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je vous ai pas amené dont vous auriez aimé parler?
Non, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Bah, déjà, moi, que je suis hyper honoré d'être dans Histoire de succès.
Honoré.
Parce que moi, je t'écoute depuis très longtemps.
C'est vrai.
Et franchement, je me suis déjà dit, Le jour où on passe dans Histoire de succès, c'est une vraie consécration. Quoi.
Je pense que dans la checklist des rêves, là, il y a...
Ah mais, wow. C'était dans la bucket list, vraiment. Clairement.
Ça fait plaisir.
Et d'ailleurs, c'est quoi pour toi, rapidement, hein, parce que je fais mon podcast. Histoire de succès, mais c'est marrant parce que... Après, c'est pas pour faire les faux modestes ou quoi, mais...
Mais c'est vrai qu'on se disait...
Un succès, enfin voilà, c'est quoi un succès, parce que...
C'est que la plupart des gens que je reçois, ils me disent, je comprends pas pourquoi tu m'invites, parce que pour moi, je suis pas au succès, quoi. Ouais. Cyrus North, par exemple, qui a presque 700 000 abonnés, quand je lui ai dit, mais viens, il m'a dit, mais je comprends pas pourquoi tu me fais venir, parce qu'en fait, pour moi, je suis pas au succès. Okay. Donc on a 10 minutes, un quart d'heure dans son épisode où on discute de ça. Qu'est-ce que c'est que pour toi le succès, en fait? Donc... En fait, moi, si j'ai envie de vous avoir là, c'est parce que je crois que votre parcours, il est inspirant pour les gens qui écoutent.
Bah, c'est cool.
Donc, et voilà, l'important, c'est de partager. Et
c'est clair.
Je ne sais pas si vous considérez que c'est un succès. Moi, je considère, de mon point de vue de spectateur, que c'est vraiment un succès. Donc, let's go.
Trop non, bien. Clairement. Clairement. Mais après, c'est vrai que je pense qu'on est tous le succès de quelqu'un d'autre.
C'est vrai, hein.
Mais non, après, faut pas, c'est clairement, encore une fois, ça serait être un peu un sale compte, dire que c'est pas un succès, alors qu'il y a tant de gens qui nous donnent tellement d'amour et qui sont tellement, qui c'est reconnaissent vrai. Notre travail comme étant quelque chose de...
Non, mais après, c'est ton échelle à toi, c'est pas
oui,
forcément...
c'est clair, non, c'est sûr.
T'as le droit de dire, mais moi, je veux aller viser plus haut, quoi.
Ouais, mais alors ça aussi, c'est un truc sur lequel faut travailler, je pense. Enfin, moi, je travaille beaucoup là-dessus.
Sur quoi?
Non, sur ce truc de... C'est quoi avoir du succès? C'est quoi avoir réussi sa vie? Et je pense que quand t'es petit, tu t'imagines, comme tu disais, Kubrick, ou voilà, tu te fais des films.
Tu veux la palme d'or, dis-le.
Non, mais voilà, tu te fais des
espèces
de codes comme ça.
T'as une ambition de cinéma très forte.
Clairement.
Bah, dis-le.
Ouais, ouais. Mais et en fait, je pense
pourquoi
que.
Pourquoi t'attends que Célia te dise à ta place?
Se sentir un peu con parfois de.
Bah, non,
de
mais c'est bien, franchement, non, d'avoir cool. Cette ambition-là. C'est, de toute façon, c'est
un rêve
le Graal, mais
oui,
c'est un rêve de gosse, quoi.
Mais par contre, ce qui est bien, c'est que. Parce que ça peut être un frein, je trouve, parfois. Parce qu'en fait, quand t'as cette espèce de rêve un peu trop haut de te dire, bah, moi, mon rêve, c'est de gagner la Palme d'Or, je trouve que ça peut être, du coup, un peu handicapant. Un peu bloquant parce que n'importe quel projet que tu vas faire, tu vas te dire, mais en fait, c'est de la merde et ça vaut pas du tout le coup que je le sorte. Et non, il faut que je travaille plus, il faut que mon scénario, là, je le retaffe, machin. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, ça peut t'empêcher de faire certaines choses.
Oui, mais c'est pas ton cas. Toi, c'est juste
clairement.
C'est un objectif, c'est quelque chose qui te stimule, mais je pense pas que ça. Fin...
Oui, mais et encore que même, ça l'est. C'est pas pour faire genre, mais ça l'est vachement moins parce que justement, je pense que. J'ai trouvé, entre guillemets, c'est horrible à dire, mais ma nourriture, enfin, je me nourris, la vie douce me nourrit et me comble, et aussi notre travail à tous les deux, enfin, tu vois, le fait de travailler en couple, d'avoir ce projet, ça, c'est plus qu'un projet, c'est un projet de vie, en fait. Et,
c'est un bébé.
Et à un moment, ouais, c'est un vrai bébé, et en fait, ça te nourrit tellement qu'à un moment donné, t'as plus de frustration, tu vois. T'en as toujours, on a toujours des frustrations, mais disons que. C'est la première fois, et la vie douce, c'est fou, parce que c'est le premier projet de ma vie qui n'en est qu'à ses débuts, je pense, et qui me comble et satisfait, et qui me fait me dire, tu sais, j'ai réussi un truc cool, c'est bien, je suis à ma place, tu vois. Et s'il n'y a pas plus, c'est pas grave. Voilà. Mais bon, ça, c'est mes égos, enfin, mais pas mes égos, mais c'est un peu des lubies de...
Non, mais c'est cool.
De créateur.
Bah ouais, c'est bien.
Merci à vous deux.
Bah merci à toi.
C'est super.
Toi.
Je mettrai tous les liens pour aller voir la vie douce, le site internet, la vidéo, la chaîne YouTube, pas la vidéo YouTube, la chaîne YouTube, le compte Instagram, etc., etc. Et puis le Patreon et le Tipeee, quoi. Si jamais ça vous intéresse. Un grand merci. C'était trop bien.
Merci Fab.
Merci à toi, bisous. Fab.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du succès.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.